Elbakin.net, le podcast. Actualité, débat, auteur, série. L'émission du site de référence de la fantasy francophone.
Salut à tous et bienvenue pour ce 95e numéro des podcasts Elbakin.net. Et pour fêter ce cinquième numéro avant la centaine, hein, parce que mine de rien, on y arrive, quoi de mieux que d'évoquer un jeu vidéo, une fois n'est pas coutume, mais pas n'importe lequel, un jeu vidéo qui est extrêmement lié à la fantasy littéraire. Je veux bien entendre parler de Baldur's Gate. Pourquoi Baldur's Gate ? Parce que le troisième opus est sorti cette année, en 2023, et c'est un jeu qui a animé littéralement à la fin de l'été de beaucoup de joueurs sur PC, plus récemment sur PS5. Avec Baldur's Gate 3, on parle vraiment du retour en fanfare d'une licence chère au cœur de beaucoup de fans, et qui avait déjà fait le bonheur de beaucoup de joueurs au tournant des années 2000. Donc, encore une fois, on fait un petit coup d'œil dans le rétro. Bon, ça ne nous rajeunit pas, hein, certes, mais c'est l'occasion du coup de faire notre rentrée sur cet univers, d'évoquer cet univers passionnant, quel est son poids aujourd'hui. Et par contre, petite précision, on va dire qu'on va simplement se concentrer sur les trois épisodes canoniques, entre guillemets, de la saga, hein, et pas sur les autres jeux vidéo développés dans le registre hack and slash. Voilà, parce qu'il y a assez de choses à dire quand même sur cette trilogie qui a marqué beaucoup de joueuses et de joueurs. Et pour parler de tout ça, nous sommes trois autour de cette table et j'accueille Bénédicte. Salut Bénédicte.
Salut à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes les bonnes gens d'Elbakin.
Et le sémillant Gilles Hossen.
Oui, bonjour, bonsoir, comme vous voulez.
Toujours présent parmi nous et je suis Giggs. Alors, petite précision, ce soir, pour ce podcast, je vais jouer la personne naïve, puisque, alors je pense, hein, à mon grand malheur, je n'ai pas joué à Baldur's Gate. Donc voilà, donc il va falloir me convaincre. J'imagine
qu'on va rajouter un bruitage de lancer de tomates.
Tant. Exactement. Écoute, j'espère pas trop en prendre, hein, parce que je vais essayer. Je garde l'esprit ouvert.
C'est essentiel.
N'est-ce pas ? On va revenir quand même un peu sur l'univers de Baldur's Gate, hein, sur son importance dans d'où ça vient. Le premier jeu est sorti en 98, si je ne m'abuse, donc ça fait 24 ans maintenant.
Oui, du coup, rappelons tout simplement que c'est un jeu basé sur les Royaumes Oubliés, donc sur Donjons et Dragons et le jeu de rôle papier.
Oui,
c'est pour ça qu'on disait qu'il y a un vrai lien entre cet univers-là de jeux vidéo et son origine dans l'imaginaire fantasy plus large. Donc oui, Baldur's Gate, c'est une cité, hein, tout simplement, dans l'univers des Royaumes Oubliés. Le premier épisode est sorti fin 98, donc ça, quand on disait que ça ne nous rajeunissait pas tout à l'heure, c'était vraiment le cas. En 2003, on comptait plus de 2 millions de ventes, et le 2 qui est sorti en septembre 2000, quant à lui, à l'époque les suites étaient quand même beaucoup plus rapprochées que de nos jours. Il compte lui aussi un peu plus de 2 millions de ventes, donc monde. Bon, sûrement que depuis, hein, notamment avec des éditions Enhanced qui avaient eu dans les quelques années, ce chiffre a dû augmenter. Mais voilà, à titre de comparaison, d'autres jeux de rôle PC sortis à cette période-là, comme on le disait au tournant des années 2000, souvent d'ailleurs par les mêmes studios, les mêmes développeurs, enfin, pas forcément les mêmes développeurs, mais les mêmes studios, comme Icewind Dale ou Planescape Torment, n'ont jamais atteint de tels chiffres. Hein. Icewind Dale, je crois, pour avoir vérifié que c'était 700 000 exemplaires. Planescape Torment, qui a lui, par contre, une réputation, enfin, comme les autres, mais qui a vraiment peut-être une réputation sur le plan critique encore au-dessus, lui, c'était environ 400 000. Donc, on voit que les Baldur's Gate avaient touché un public bien plus large. Et à l'époque, si on prend des titres comparables sur console cette fois, parce que là on parlera vraiment des jeux PC, alors je dis sur console, mais il était aussi sorti sur PC d'ailleurs, mais FF7, donc Final Fantasy VII, sorti à l'origine en 97 sur PlayStation, lui c'est avant le remake, hein, bien sûr, C'était 15 millions d'exemplaires vendus, dont plus d'un million sur PC. Voilà, vous parlez à quelqu'un qui a... Alors, j'avais pas fait le FF7 sur PC, mais j'avais fait FF8, donc j'ai encore la boîte PC chez moi. Donc, il y avait bien des joueurs de Final Fantasy sur PC, ouais, même à l'époque.
C'était ma question, c'est qui joue à FF sur PC ? Et voilà, on a...
Eh bien, voilà, moi, j'ai joué à FF8, j'ai fait FF8 sur PC, et je m'en portais pas plus mal, du même. Ouais. Donc, c'est dire si les Baldur's Gate ont quand même une aura...
certaine.
Ouais, une aura certaine, et qui s'est traduit pas seulement, justement, comme un succès critique, mais aussi... avec ce succès de vente, hein, tout simplement. Et pour enchaîner sur la présentation de ces deux premiers jeux, hein, j'y vais direct, je m'engouffre dans la brèche.
Vas-y.
Faut rappeler donc que ce sont aussi des jeux en perspective isométrique. Je pense que vous voyez quand même ce que c'est. Créé avec l'Infinity Engine, développé pour l'occasion par BioWare. Et c'est donc un principe au-delà de la vue, c'est... un moteur qui permet de mêler le jeu en temps réel à des combats en pseudo-temps réel, hein, puisque voilà, après il suffit d'attribuer des actions à chacun des personnages de son groupe.
Un petit truc par rapport à justement ce moteur de jeu.
Oui, vas-y.
Ce qu'il fallait savoir, c'est que jusqu'à présent, les jeux de rôle PC occidentaux étaient dominés par ce qu'on appelait les dungeon crawlers. Vous savez, ces jeux où vous êtes enfermé dans un donjon et vous bougez de case en case, où le gameplay c'est faire la carte à côté sur votre carnet avec un crayon, et vous tapez des monstres, mais c'était des jeux très claustrophobiques, et c'est surtout c'est qu'on en a eu une pelletée. Tout était parti de Dungeon Master, puis après il y a beaucoup de jeux Donjons et Dragons qui ont repris ça, notamment les Eye of the Beholder, mais à l'époque on a l'impression que 90% des jeux de rôle c'était t'es enfermé dans ton donjon. Là avec Baldur's Gate, enfin, parce que la fantasy épique c'est des grands voyages, des environnements ouverts, on se baladait dans des forêts, on avait vraiment l'impression de passer d'un lieu à un autre, alors qu'avant c'était... je suis dans mon donjon, j'avance case à case. Alors, le dungeon crawler, ça existe toujours. Mais c'est un genre à part. À l'époque, on n'avait que ça. Donc, quand ils sont arrivés avec ce moteur un peu ouvert, c'était quand même une très belle innovation de rupture dans la façon de représenter un RPG sur PC.
Pour un naïf comme moi, qui n'a jamais joué, c'est quoi le but de Baldur's Gate ? Et ne me dites pas taper les méchants.
Non, dans le premier, tu joues l'apprenti d'un mage, et tu vas partir à l'aventure rencontrer, faire la rencontre de compagnons en cours de route avant de te rendre compte qu'il y a une conspiration et bien sûr un grand méchant derrière.
Mais,
là, c'est de façon assez succincte, mais tu joues un apprenti.
Donc il y a pas mal de lore, si je comprends bien. Parce, bon,
oui,
de toute façon,
t'as
tout le lore de Donjons et Dragons. Mais du coup, ça se joue temps réel, tour par tour, j'ai besoin de visualiser.
C'est pas du... enfin, pour moi, c'est pas du temps réel. Enfin, je sais pas si Bénédicte, tu veux intervenir sur le...
En fait, alors, je vous ai parlé des Dungeon Crawler qui étaient très case-case.
Oui.
Il y avait un jeu qui était pour moi le jeu de cœur de l'époque, et souvent, moi, quand j'ai joué au Baldur's Gate, j'étais moins impressionné parce que moi, ma référence de l'époque, c'était Ultima 7. Qui était un monde ouvert en pixel art. Donc, Baldur's Gate, c'était des grosses maps, et on passait d'une map à l'autre, comme un tableau typique d'un jeu vidéo. C'est des jeux libres d'aventure, en fait. Et tu te balades, tu discutes. Dans Ultima 7, tu pouvais zigouiller tout le monde, tu étais quand même assez libre. Mais il y avait quelque chose que j'ai trouvé que Baldur's Gate a amené, c'est un côté très écrit, très littéraire. Des vrais dialogues, des vrais choix, tu avais vraiment ce côté livre interactif. En plus, tu as de la stratégie, tu as vraiment l'impression de comme faire un jeu de rôle sur table, mais en plus, tu vois, ce côté livre dont vous êtes l'héros, plus, en plus, tu as un jeu vidéo, en plus, tu as les beaux dessins. En fait, tu as un peu de tout. Tu as à la fois une qualité d'écriture littéraire qui était un peu inégalée pour les jeux vidéo de l'époque, parce que même Ultima, je l'adore, mais il n'y avait quasiment pas de dialogue, c'était très, très succinct, et c'est plutôt l'environnement ouvert qui t'impressionnait. Les Dungeon Crawler, c'était, tu faisais du gros bilisme, hein, tu montais en XP, quel sort était le plus puissant. Là, dans Baldur's Gate, c'était vraiment l'impression que le PC était ton maître de jeu, un peu comme les débuts d'une intelligence artificielle. Il te faisait vraiment vivre une partie de jeu de rôle. Parce qu'au lieu de te réunir avec tes copains, tu vas jouer sur ton ordinateur. À la limite, tu peux comparer ça avec un Zelda, mais t'incarnes Link, tu fais les aventures. Là, tu as vraiment un groupe de personnages qui va beaucoup interagir. Tu as des factions, tu as un lore gigantesque. Donc, tu as vraiment cette sensation d'univers basée sur une qualité d'écriture en plus d'un jeu avec des dés que tu avais l'habitude de n'avoir que quand tu faisais des jeux de plateau.
Carrément. En fait, disons que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a, enfin, cette filiation avec Donjons et Dragons, en fait. C'est vrai que moi, à l'époque, je le voyais pas du tout comme ça.
C'est vraiment des jeux à licence, comme on dit, mais du coup, qui savent tirer profit D'accord, de la licence, okay. quoi, et pas s'en servir bêtement, okay. en fait.
Ce qui explique leur succès, j'imagine.
Je pense. Après, ce qui explique aussi leur succès, c'est ce que j'avais prévu de dire plus loin, mais je pense que ça serait mieux de le dire tout de suite, c'est que, quand tu lances Baldur's Gate, déjà, tu avais le logo Black Isle, donc studio qui appartenait à Interplay, Interplay qui publia quand même le fameux jeu de rôle Seigneur des Anneaux sur Super Nintendo, hein. On n'oublie pas.
On n'oublie pas, non.
J'ai assez souffert avec ces sauvegardes avec des mots de passe. Mais bon, c'est une autre histoire. Et donc Black Isle, c'est un studio, hein, parce que c'est eux qui ont fait justement Fallout 2, Icewind Dale, Planescape Torment que je citais. Par contre, le développeur proprement dit des deux Baldur's Gate, c'est BioWare, hein, qui a créé donc l'Infinity Engine, et qu'on connaît aujourd'hui pour des jeux plus récents comme les Mass Effect, Dragon Age.
Les Star Wars.
Aussi les Star Wars Knight of the Republic. Exactement. Voilà.
Même Jade Empire, oui. Le jeu que personne n'a joué, mais que moi j'ai joué.
C'était un jeu exclusif Xbox. Et ne dites pas que c'est pour ça que personne n'y a joué, parce que je vais me vexer. Mais voilà, donc c'était leur premier. Non, c'était pas leur premier, mais c'était un de leurs premiers jeux. Et je pense que la qualité du studio, forcément, a joué sur la qualité du jeu. Hein, donc. Ça n'aurait pas été la même expérience si ça avait été quelqu'un d'autre derrière. Là, ils ont vraiment réussi un coup de maître. Et c'est vrai que pour moi, le premier Baldur's Gate, surtout, c'est celui auquel j'ai le plus joué, hein, des deux premiers. Et c'est avant tout de la nostalgie. Hein. C'est un de mes premiers jeux sur PC, un de mes premiers jeux de rôle qui ne soit pas à la japonaise, hein, puisque moi, avant, je jouais sur Super Nintendo et Mega Drive, donc c'était... c'était pas le même genre de RPG, clairement. Voilà, la découverte aussi d'un univers, comme on disait, les Royaumes Oubliés, qu'à l'époque, moi, je connaissais presque que de nom, hein, parce que c'était... on est en 98, donc 99, c'est vraiment le... Je m'intéresse à la fantasy, mais pas... Elbaki n'existe même pas, vous vous rendez compte. J'ai pas encore une énorme expérience même de lecteur. Et moi, justement, j'ai longtemps été fasciné par le jeu de rôle papier, je veux dire, même sans y jouer. C'est quelque chose qui me faisait rêver. Hein. J'étais abonné à Casus Belli pendant des années sans faire une seule partie. Donc le côté simplement écriture de scénario, découverte d'univers, bon, ça me parlait aussi. Et Baldur's Gate, c'était également une porte d'entrée là-dedans. Et d'ailleurs, le nom de base du jeu, hein, au départ, ça devait être Les Royaumes Oubliés, tout simplement, Forgotten Realms, avant qu'ils choisissent de l'appeler Baldur's Gate. Donc c'est vrai que moi, au niveau nostalgie, je me souviens de tous ces milliers de clics pour déplacer ces persos de tableau en tableau, choisir une action. La voix agaçante et les répliques forcément répétitives quand tu as une réplique à chaque fois que tu cliques sur le perso du niveau N. Je pense que je suis pas le seul à m'en souvenir. Gérer son inventaire où tu as envie de ramasser tous les trucs possibles à droite à gauche. Rencontrer carrément Drizzt, hein, que tu pouvais croiser dans le jeu.
C'est le début du fan service.
C'est ça, voilà, et qui pouvait se battre avec ton groupe. Hein. Tu pouvais pas l'inclure dans ton groupe, mais il y avait moyen de le faire se battre pour toi et de le faire intervenir quand ça devenait trop compliqué. Donc, tricher, bien sûr. Hein. On est sur PC après tout. C'est quand même pratique. Moi, c'est vraiment des très bons souvenirs de jeu. J'y ai passé beaucoup de temps. Même si le scénario en lui-même est quand même assez classique, hein, c'est une menace à l'échelle du monde qu'il faut, comme je dis, on incarne l'apprenti d'un mage, il faut sauver la côte des épées d'un dieu maléfique, en soi c'est pas le scénario le plus original du monde, mais par contre c'est conçu de façon très efficace. Et effectivement, l'intérêt, dans mon souvenir toujours, hein, parce que j'avoue, je n'y ai pas rejoué exprès pour ce podcast, je me confesse, mais dans mon souvenir, l'intérêt montait, comme souvent, hein, au fur et à mesure de l'aventure. Hein, en général, les débuts sont assez, sont assez... Enfin, dans tous les RPG, tu débutes en général de façon un peu plan-plan, hein, même si t'as parfois des RPG où tu débutes avec la destruction de ton village ou des trucs comme ça, mais globalement, ça peut être assez tranquille. Et voilà, et le 2, pour basculer sur celui-ci, brièvement, hein, juste mes souvenirs à moi, qui se passe pas d'ailleurs plus vraiment à Baldur's Gate. Alors, il y a une extension hein, entre le 1 et le 2, et le 2 se prend davantage place à Athkatla, donc une ville plus au sud de Baldur's Gate. Et alors moi, je me rappelais pas de grandes innovations, j'avoue, comme ça. Et puis après quelques recherches pour rafraîchir la mémoire, je m'aperçois qu'en réalité, le consensus, c'est plutôt que tout le monde considère que le 2, bah, c'est le premier, mais en mieux, avec en tout cas des limites un peu repoussées, que ce soit au niveau de l'histoire, encore plus aboutie, ce genre de choses. Et en tous les cas, pour moi, c'était deux grands jeux. Si j'y joue plus, ça m'arrive encore, puisque moi, je suis quelqu'un qui... Pas tellement quand je lis, d'ailleurs, mais en tout cas quand j'écris. J'écris souvent en musique, et c'est vrai que j'écoute encore les BO, par exemple, de Michael Honing, qui était le compositeur de ces deux premiers volets. Voilà, pour moi, c'est vraiment deux très bons jeux, et pourtant, les gens qui nous écoutent, enfin, qui ont l'habitude de nous écouter, savent que je ne suis pas le plus grand fan des Royaumes oubliés. Mais voilà, encore une fois, quand c'est bien fait... Bon.
Disons ce que les gens retiennent et re-expriment, c'est en fait c'est quelque chose que tu ne peux faire qu'avec un jeu vidéo finalement, c'est que tu gères un groupe de personnages et tu as toutes les histoires des personnages, ce qui est autant c'est obligé le héros, et encore il y a un twist par rapport à son héritage, mais autant le héros, bon, il est obligé d'être basique puisque tu vas le créer toi-même, hein, tu as une création de personnage.
Oui, c'est ça.
Souvent les gens ils te disent, moi ce que j'adore c'est créer le personnage, je passe des heures à créer le personnage. Puis après, ce que tu n'as rarement dans les JRPG, par exemple. Et après, ben, tu montes ton groupe. Dans les Baldur's Gate, tu peux avoir 6 personnages en même temps. Et tu peux choisir en fonction de tes affinités, celui que tu trouves sympathique, ou monter et créer ton groupe. Tu peux même aller jusqu'à en faire disparaître toi-même, de faire des choix. Et souvent, c'est plutôt les interactions de groupe que les gens ont créées pendant l'histoire qui sont faites avec leur groupe de personnages. Et je voudrais rebondir sur le fait que Baldur's Gate apparaît comme le brouillon du 1. Mais en vrai, c'était typique de l'époque. De nos jours, on critique le concept des early access, surtout des early access, en disant oui, mais on fait payer une bêta à des joueurs. Mais à l'époque, ce qu'ils faisaient, les gens, ils avaient pour but de faire un jeu. À un moment donné, il faut faire rentrer les sous dans les caisses. Donc, les patrons, ils disaient, ben, sortez une version là, et vous ressortirez le truc mieux, mais ça sera le 2, en fait. Et c'était la même chose avec Fallout. Et plein d'autres types de jeux qui n'étaient pas des RPG, et c'est typique. Ils sortaient plus souvent des suites, mais en fait, ils faisaient une preuve de concept avec le premier. Ils savaient qu'ils devaient bousser. Et en fonction des retours des joueurs, du temps qu'ils gagnaient, ils ressortaient un 2 qui était toujours meilleur, en fait. Alors, l'époque a changé, on ne fait plus trop ça maintenant. Il faut qu'un jeu cartonne dès le début, qu'il rapporte énormément d'argent, que dans les 2 jours de la sortie, il faut qu'il y ait plein de ventes. Donc, il y a d'autres stratégies. Mais le principe est toujours le même. Il faut vraiment beaucoup d'input pour améliorer des jeux aussi ambitieux qui te prétendent de te faire vivre une aventure, quoi.
D'accord. Je viens de regarder la longueur des jeux. Punaise, pour des jeux de cette époque, c'était entre 30, 50 et tu pouvais même aller jusqu'à 90 heures, quoi. Pour des jeux de fin des années 90, tout début des années 2000, quoi.
Ah, moi, j'ai pas fini le 2, je l'avoue ce
c'est
soir.
C'est gigantesque quand tu vois l'époque que c'était. Après, c'est vrai que j'ai moins de références par rapport aux jeux PC, mais enfin, moi, ça me semble énorme.
Ah, je sais pas, il fallait combien de temps pour finir un FF5 ou 6 ?
Ah bah, c'était 30 heures. Hein. Les FF, c'est une trentaine d'heures, hein. Pas plus.
Même en comptant, hein, si tu veux augmenter ton...
Ah ouais, si tu veux maxer, tu vas compter une cinquantaine d'heures. Allez, à tout casser. Mais si tu...
Disons, si tu veux être large pour affronter les boss.
Si tu veux être... Bah, niveau. Tu sais, FF4, si tu veux être large, tu vas jouer ouais, 30 heures max. T'as pas tant de catenx. Après, FF4 est pas un bon comparo parce que c'est plutôt tout début des années 90 alors que Baldur's Gate
c'est enfin là,
donc si on prend FF7 ouais FF7 pour le coup tu commences à avoir une des quêtes annexes qui à défaut d'être non plus hyper nombreuses sont assez difficiles donc mais tu montes pas au-delà de 70-80 heures ouais bon allez ouais ok mais
Baldur's Gate 2 est beaucoup plus long que le 1 et t'as énormément de quêtes annexes, notamment des quêtes annexes où littéralement tu gères un château.
Ah, d'accord.
Donc t'as vraiment du. À tel point que c'était une feature tellement importante que des prétendus successeurs de Baldur's Gate dans les années 2000-2010 ont dit hey, nous aussi, vous allez gérer un château quand dans votre jeu de cœur d'il y a 20 ans. Ça a marqué les gens. Hein. Des quêtes annexes qui disent en vrai, les quêtes annexes, elles sont aussi bien écrites que la quête principale. T'as ce côté l'histoire dans l'histoire. Et Baldur's Gate 2 était bourré de ça, quoi.
C'est pas Stronghold qui est un jeu où tu gères un château et tu fais que ça.
Ça me dit quelque chose, mais effectivement, par contre, tu fais que ça.
Oui, hein. Il me semblait que tu fais que ça.
Mais après, ce genre de choses, c'est vrai que tu le retrouves même dans The Witcher 3, hein, où tu peux avoir ton propre domaine, avec des quêtes annexes pour embellir la villa, ce genre de choses.
Ouais, mais c'est 20 ans plus tard.
Oui, voilà. Non, mais c'est 20 ans plus tard. Je veux dire, justement, c'est, encore une fois, ça a dû... Peut-être que ça vient aussi de Baldur's Gate, parce que ça a marqué aussi une génération de joueurs d'avoir ces à côté en fait. Voilà, t'es plus dans tu es effectivement plus dans la quête principale, mais t'as plein de choses à faire en empruntant des chemins de traverse et qui sont tout aussi passionnantes que aller défier l'antagoniste principal qui lui menace le monde. Donc c'est aussi, je trouve, une preuve de qualité de ces deux jeux. Et du coup, surtout le second, qui font qu'on s'en souvient encore. Hein, et c'est vrai que ils ont vraiment marqué les joueurs, je pense, de l'époque. Puisqu'on en parle encore maintenant. Et pourtant, il y a quand même eu après... alors, je ne sais pas si, Bénédicte, tu veux ajouter quelque chose sur le 2 ou...
Non, pas particulièrement. Après, pour les complétionnistes, je crois que ça serait quand même difficile d'apprécier autant le 2 si tu ne fais pas le 1 et le 2. Parce qu'il y a vraiment une continuité directe. Tu retrouves les mêmes personnages. Tu as même certaines dramaturgies qui ne marcheront beaucoup moins bien si tu n'as pas fait le premier Baldur's Gate.
Question de noob, est-ce que il y a des passerelles entre le jeu et les livres? C'est-à-dire, est-ce qu'il se passe des choses dans l'un que tu retrouves dans l'autre et inversement? Des événements...
T'as tellement de livres, je t'avoue que là, je ne saurais pas te dire...
Ou alors, est-ce que ça relate?
Non, mais clairement, par exemple, tu as des dans les royaumes oubliés, tu as les fameux elfes noirs, les drow, qui sont des factions très... Ils sont présents. Tu as des sociétés secrètes,
c'est le lore.
Les Ménestrels, ils sont présents.
Il y a des grandes figures très puissantes, qui est un personnage très, très connu univers-là, qui est le Gandalf de Donjons et Dragons. Corrigez-moi si je me trompe. Bien entendu, Drizzt, mais... la question que je me posais, c'est est-ce que vraiment ça réutilise des événements importants, tu vois, des dieux qui meurent, etc. Ou alors ça reste vraiment sur le lore de manière générale, en fait.
Pour moi, c'est la force de ces jeux-là et ça en reste là. C'est vraiment la force
du
lore.
Okay. C'est pas
c'est ton aventure dans les royaumes oubliés
telle qu'elle s'est passée dans tel bouquin.
Non, pas du tout. Au contraire, ce que je trouve le grand charme de ces franchises. Tu te plonges, c'est toi qui vas faire l'aventure.
En revanche, au niveau des clins d'œil inter-support, on va dire, moi, c'est dans le film Donjons et Dragons, j'avoue, j'ai eu un grand sourire quand j'ai aperçu Baldur's Gate sur la carte à un moment qui défile dans le film. Ça dure un quart de seconde. Si t'as pas joué au jeu et que tu connais pas du tout l'univers des Royaumes Oubliés, je pense que pour toi c'est un nom sur la carte, mais je pense que pour les joueurs et les joueuses des jeux, ça a dû faire un plaisir de voir
dans un
Gate,
bon film
mentionné au détour d'un plan dans le film, quoi.
Voilà. Dans un bon film en plus.
Eh ben écoute, oui, moi je trouve que c'est un bon film d'aventure pour toute la famille.
On parle bien de Donjons et Dragons avec Jeremy Irons.
Ben non, pas celui-là. Je parle du dernier.
Ah, d'accord, ok. Ok, oui, parce que
je me disais,
pourquoi est-ce qu'il nous parle de Donjons et Dragons? Je pensais que tu parlais de celui qui s'est sorti.
Ah non, non, je parle de l'honneur.
L'honneur des voleurs, oui, effectivement. Sorti cette année.
Ben, c'est ça. Mais pour en revenir à Baldur's Gate 3, ce que j'ai découvert, pour passer à Baldur's Gate 3, ce que j'ai découvert, j'avoue, je ne savais pas, ou alors j'avais totalement oublié, Mais il devait déjà y avoir un Baldur's Gate 3, pour le coup pas par BioWare, mais par Black Isle, que je citais tout à l'heure. Et le jeu avait été annoncé en 2002, pour être annulé l'année suivante, hein, en même temps que Fallout 3, enfin le Fallout 3 original, hein, pas celui qui est sorti avec Obsidian. Ce Baldur's Gate 3 devait utiliser les règles de la troisième édition de Donjons et Dragons, contre celle de la deuxième pour les deux premiers. Enfin là, ça parlera quand même surtout aux rôlistes. Bon, alors, sans rentrer dans les détails du scénario, visiblement, parce que bon, là, on va se concentrer maintenant sur le gros morceau, c'est-à-dire le vrai troisième opus qui est sorti. Mais en tout cas, ce Baldur's Gate 3 originel avait l'air quand même assez différent de celui qu'on a découvert cette année pour ce qui est de la sortie officielle, et un peu avant pour ce qui est de l'Early Access. Voilà, mais là, je pense que Bénédicte pourra nous en parler davantage.
Bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai plus d'une centaine d'heures de jeu. Je suis totalement passionné par jeu. On pourrait prendre pour point de départ le fait que ce n'est pas n'importe qui s'est lancé dans ce chantier qui est de faire Baldur's Gate 3 23 ans après le 2. C'est le studio Larian. Alors, ils sont assez connus parce que ce serait un peu les producteurs actuels de jeux de rôle occidental d'inspiration rôliste, donc on a vraiment l'impression d'une partie sur papier projetée sur l'ordinateur, c'est devenu un peu les patrons. Ils ont fait les Divinity Original Sin 1 et 2. Avant ça, ils avaient fait pas mal de jeux, mais qui étaient beaucoup plus des équivalents de Diablo, plus des hack and slash. Donc on a appris que c'est eux qui s'occupaient du chantier. Première réaction, eux ils sont sérieux, ils ont leur propre franchise, ils gagnent de l'argent, ils ont un succès critique, ils ont un succès public, mais ils se sont dit, ouais, mais ils ont quand même leur patte, leur particularité. Ils mettent beaucoup d'humour dans le jeu, ils sont très humour clin d'œil, limite, ils tournent un peu en dérision les codes de la fantasy. D'ailleurs, leur logo, c'est un guerrier avec un casque très sérieux, puis après, il y a une espèce de ventouse qui apparaît qui lui tape le casque. Il y a un peu un côté, on sait, les fantaisies, c'est toujours les mêmes codes, et nous, on en rigole un peu. Donc les gens, au début, ils ont un peu grincé des dents. Surtout que quand ils ont regardé le dernier Divinity Original Sin 2, je dis très bon RPG, très belle mécanique, mais visiblement l'écriture c'est pas votre truc, vous compensez par l'humour, vous faites des clins d'œil parce qu'en fait prendre au sérieux un scénar c'est pas non plus votre délire, vous faites des très bonnes scènes de combat, vous faites des très beaux univers, c'est un peu trop cartoon, donc les gens ont eu un peu peur, mais clairement c'est pas le cas. Oui, c'est un jeu Larian dans les mécaniques pures et dures, dans la réalisation. Mais en revanche, je pense que la pression d'avoir une licence Donjons et Dragons leur ont permis de un peu se cadrer, un peu comme un auteur qui part un peu en roue libre, il a un éditeur un peu costaud qui le cadre, et ils ont un peu magnifié leurs points forts, et ils ont surtout minimisé, voire enlevé un peu leurs points faibles quand on veut faire reprendre une franchise qui a un peu un certain standing auprès des joueurs, quoi. Alors, je sais pas si vous avez un peu des jeux Larian ou si ça vous avait fait peur, hein. Enfin, surtout toi.
Moi, je les connais de réputation et je sais qu'effectivement, en général, loués pour leurs univers et pour l'humour. Mais c'est vrai que je me suis jamais frotté à un de leurs jeux directement, quoi. Ça, je pense que ce troisième Baldur's Gate sera mon premier Larian. Mais je les suis depuis un certain temps parce que j'ai vu grandir justement cette réputation belge. De jeu en jeu, donc je m'intéressais de plus en plus près, quoi.
Exactement. C'est très intéressant, ça, parce qu'en fait, c'est des Européens. Et à l'instar que Witcher 3, c'est des Polonais, et que Hallcats, ceux qui s'occupent des Pathfinder, sont des Russes. Donc on a vraiment c'est un peu les Européens qui font les derniers RPG occidentales. Et pour avoir joué à Pathfinder, qui pour le coup est très déférent envers les jeux des années 90, on vous redonne ce que vous avez aimé, évidemment avec la technologie actuelle, mais c'est vraiment des dialogues très écrits, vous cliquez, les petits personnages, ouais. Vous avez l'impression de refaire un Baldur's Gate, mais avec l'univers Pathfinder qui a un peu d'ADN à Donjons et Dragons. Vous faites des combats en pose active, en tour à tour, etc. Là, Larian a dit non, nous, on veut un peu innover, nous, notre univers, il va être en 3D, isométrique mais vivant. Moi j'appelle ça un diaporama en monde ouvert. On a vraiment l'impression d'un monde tout autour des personnages. Ça enrichit l'exploration. Tous les bâtiments sont visitables, un peu comme des maisons de poupées. Toutes les portes peuvent s'ouvrir. Il y a vraiment ce qui fait la force de Larian. Ils l'ont apporté à Baldur, c'est les possibilités et l'interaction avec l'univers. parce qu'on est dans un monde de fantasy, on a des pouvoirs magiques, et c'est des choses que personnellement j'avais jamais expérimenté dans les autres jeux Donjons et Dragons, mais dans un univers où on a des magiciens qui peuvent détecter les pensées, parler aux animaux, parler aux morts, se téléporter, un sort qui peut pousser quelqu'un, ben en fait on peut le faire dans le jeu. Et ça reste des jeux très écrits, on n'est pas dans un gameplay émergent à la Zelda, mais on est dans un jeu très écrit, avec plein d'embranchements, les quêtes, on peut y rentrer à différents endroits, ça change un peu les déroulements, c'est des mécanismes qui ont fait la réputation de l'Ariane. Oui, vous êtes des petits rigolos, mais vous savez très bien écrire les quêtes. Vous êtes ceux qui écrivez les mieux les quêtes dans un univers où il y a peu des embranchements, des choix à faire, plein de possibilités. Des fois, on va trouver des trucs par hasard. Ah ben, dans la vie, on trouve des trucs par hasard. Il n'y a pas le donneur de quête que vous êtes obligé de parler pour faire l'embranchement classique. Non, vous pouvez rentrer dans la quête en plein milieu. Ça, ils l'ont apporté à Baldur's Gate. Ça s'est très bien marié. Et vraiment, là où ils ont été forts, eh ben, ils l'ont donné à Baldur's Gate. Non, on ne va pas vous donner la rigidité d'il y a 20 ans. On va vous montrer de l'interactivité. Là où ils ont été... Peut-être qu'ils ont pris des consultants extérieurs. Ils savaient qu'ils n'étaient pas bons en écriture. Donc, ils disent, nous, on ne va pas avoir des dialogues écrits. Ça va être plus des dialogues parlés, des vrais échanges. Et quand les personnages parlent, il y a un excellent doublage des personnages. On a vraiment l'impression des personnages qui parlent. Vous n'êtes pas en train de voir... qui peut être un reproche, hein. On lit des lignes de texte, mais il dit, mais ils parlent ou je lis un livre là. Là, ils se sont dit, non, ils vont parler ben, comme dans une série télé. Maintenant, les gens, peut-être qu'ils lisent un peu moins, mais ils lisent beaucoup de séries télé. Ils n'ont peut-être pas lu tous les romans Royaumes oubliés dans les années 90, mais ils ont lu beaucoup de séries télé, Game of Thrones, etc. Donc, quand les personnages y parlent, ils ont un langage corporel, il y a des échanges, donc c'est super agréable. Donc, ils ont dit, nous, on ne va pas se lancer dans... On ne va pas faire les Ericsson, hein, mais... Ça, on sait que vous aimez bien, c'est un peu plus moderne, et nous, ça nous va bien. Donc, moi, j'ai pas mal apprécié la façon dont ils ont respecté la franchise, tout en plaçant au maximum.
Dire, tu veux dire qu'il n'y a pas tous
si vous avez des questions sur l'écriture divers et variée.
Je suis, et tous ces dialogues, je suis choqué.
pas du tout. T'as vraiment l'impression de voir une série... En fait, c'est une série télé interactive. Donc vraiment, il y a vraiment un dynamisme. Des fois, il y a un personnage, il va faire une blague, mais il va te surprendre parce qu'il y a un excellent doublage. Au niveau réalisation, notamment les compagnons avec qui tu vas plus parler, il y a une excellente motion capture de visage. Pourtant, ils ont des visages très caractéristiques, hein. On voit des elfes, des magiciens, machin, mais ils sont bien détaillés. Et puis quand ils parlent, on voit des expressions du visage. Les dialogues, ils s'éternisent pas. C'est des échanges, quelques dialogues. On passe pas des tunnels de dialogue avec des PNJ, mais ça avance bien et c'est très dynamique. C'est très agréable. Alors, peut-être certaines personnes sont nostalgiques, peut-être beaucoup plus écrites.
À t'entendre, Pathfinder.
À ce moment-là, je leur conseille de jouer à un Pathfinder.
Je sais pas si vous aurez la référence de Zelda Twilight Princess de sa série, quoi. C'est-à-dire un jeu qui reprend ce que les gens ont aimé, qui donne au public ce qu'il veut, a priori, mais qui renouvelle pas du tout qui renouvelle rien.
La recette.
D'accord. Et qui
exactement. L'Ariane, ils ont les reins solides, hein. Même si on les traite de petits rigolos, eux, ils vendent des jeux, ils gagnent des millions, ils n'ont pas besoin de... Puis ils ont leur communauté qui les soutient. Donc ils ont dit, ok, nous, on va faire ce qu'on veut, on va faire ce qu'on est capable de faire, mais...
Non.
Mais parce qu'avant ce Baldur's Gate 3, c'est ce qu'on évoquait avant de débuter l'enregistrement, on a eu plein de jeux, hein, comme les Pillars of Eternity, les Tyrannies d'Obsidian, si je ne dis pas de bêtises, qui, eux, pour le coup, rappelaient, eux aussi, beaucoup plus les jeux des années fin 90, début 2000, quoi. Enfin, sans cet esprit d'innovation, bon, sans le budget aussi, sans doute, hein, mais sans cet esprit d'innovation que tu as l'air de mettre en avant pour Baldur's Gate 3.
Exactement. Moi, par exemple, ils ont trop de déférences. Alors, à l'inverse, Pathfinder... Au moins, ils adaptent des campagnes qui existent de jeux de rôle. Donc, ils suivent. Ils ont fait quelque chose de différent. Ils ont littéralement, ce que disait Geeks tout à l'heure, ils ont adapté quelque chose qui existe. Ils ont adapté une campagne de RPG qu'on joue en jeu vidéo. Et après, ils ont essayé de moderniser. Vu que les PC sont plus puissants, tu as beaucoup plus de choix de personnages, etc., de choix de classe. très bien. Et puis ils ont combiné un jeu de stratégie en même temps, donc ils ont un peu complexifié les choses, un peu à la Hero of Might and Magic en même temps. Donc ils ont deux jeux à l'ancienne en même temps. Donc eux, ils ont quand même été ambitieux dans leur nostalgie. Les autres, ils étaient beaucoup trop... ah non, on va vraiment titiller la fibre nostalgique, mais sans rien apporter. Ce qui fait que ben, ils n'ont pas continué. C'est pas eux qu'on allait chercher pour faire Baldur's Gate 3. Ils sont allés chercher Larian, qui eux, dit, eux, ils ont les reins solides, ils vont faire une proposition la leur. Après, il y a le lore de Royaumes Oubliés, qui justement est un lore qui, à lui tout seul, peut s'adapter à n'importe quelle mécanique de jeu, en fait.
Alors que spontanément, on aurait pu penser que Obsidian, vu qu'il y a beaucoup d'anciens de Black Isle, ça aurait pu être le choix. Alors peut-être que ça aurait été le choix de la facilité, du coup. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer que ce soit eux, que ce soit ce studio qui soit choisi pour un Baldur's Gate 3, quoi. Justement, peut-être à cause de cette déférence envers la saga. Alors que finalement, ça les a desservis presque.
En fait, ils ont été malins. Ils ont un peu regardé ce qu'ils faisaient un petit peu avant eux. Et il y a une franchise assez connue qui sont les Dragon Age. Dragon Age, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dragon Age Origins, Dragon Age Inquisition. Et dans les Dragon Age Origins Inquisition, on voit justement un des points forts, c'était un peu la mise en scène des dialogues, le fait d'avoir des personnages en gros plan. Parce que jusqu'à présent, Larian, il restait à des petits bonhommes. On avait même l'impression d'être un truc un peu cartoon. Donc ils se sont dit, mais ça marche aussi. Mais on va rester un peu moderne. C'est un peu les Mass Effect. Les gens aiment bien ce côté, j'en reviens toujours à ça, à ce côté série télé, ce dynamisme. Série télé, il y a une belle narration. On enchaîne des épisodes, on peut raconter des trucs maintenant. Donc ils ont dit, ça marche. Ça, c'est un langage qui est très bien adapté aux jeux vidéo modernes, surtout où on avance, on fait vivre des aventures, on doit intégrer les gens à un univers. Tout le monde ne connaît pas les Royaumes Oubliés. Il y a je ne sais pas combien d'espèces différentes, de factions. Et ça marche très bien. Limite, c'est Larian, il dit, nous, la mécanique, on l'a. Le garage, on l'a. On a les ingénieurs, les techniciens. Et puis, il nous manquait des auteurs pour nous apporter du texte, du lore, et puis aussi des barrières. Et puis, je les suspecte d'avoir fait appel à des consultants extérieurs. Ça, on ne sait pas tout. Ils ont peut-être fait appel à des gens qui ont bossé en intérim pour des jeux BioWare. On le sent un peu. Il y a quand même, moi, je l'ai ressenti un peu dans certains types de personnages, certains développements. On sent un peu la patte d'écriture de jeux BioWare. Donc, soit ils sont très forts à s'approprier, à domestiquer. Peut-être ils ont énormément joué à des jeux BioWare, soit ils ont fait appel à de la sous-traitance.
J'hallucine. Je vois qu'il y a 300 heures de quête secondaire. Je suis pas de coq à l'âne, mais...
Oui, ça, moi je le crois, parce que c'est un jeu, plus que des choix, tu as des conséquences. Donc à chaque fois que tu vas faire un choix, tu vas t'ouvrir une porte, tu vas enfermer. Donc tu n'as qu'une envie, c'est refaire une partie. Pour dire, moi j'ai fait ça, ça m'a peut-être bloqué un truc par la suite, mais ouvert à ça. J'ai qu'une envie, c'est me refaire un perso. C'est comme à un moment donné, ils t'ont dit, il y a des je ne sais pas combien de fins différentes. Oui, à la fin, tu auras dans ta partie la possibilité, à la louche, un 5-6 fins. Mais si tu comptes avec qui tu as fini le jeu, avec qui tu t'es allié, qu'est-ce que tu as vécu pendant toute ta partie ? Clairement, des régions qui ont été peut-être oblitérées, ça te fait plein d'histoires différentes. En vrai, tu construis ton histoire.
D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vis pas la même chose chaque fois que tu relances une partie.
Oui, parce que tu vas littéralement être obligé des fois. Alors moi, justement, je connaissais pas un peu le jeu. Moi, j'ai littéralement tué des personnages pour obtenir des personnages dans mon groupe. Parce qu'à un moment donné, il va faire un choix. Il y a cette faction, elle s'oppose à cette faction. Moi, j'ai bourriné. Mm-hmm. Et voilà. Mais je lui dis, mais il était cool ce perso. Bon, là, malheureusement, c'est ça. C'est ok, tu as été le bon soldat de ta faction. J'étais obligé de te tuer. Ah, peut-être que quand je rentrerai une partie, ce personnage, il me donne envie de faire d'autres choix.
D'accord. Ça dit le nombre faramineux de dialogues et de possibilités. Enfin, ça donne le tournis.
Exactement.
Quoi.
Et d'ailleurs, je pense que l'Early Access a beaucoup aidé dans l'acte 1. Là, récemment, il y a eu un patch. Effectivement, il n'y a qu'une seule fois où je les ai... ça a un peu vu les limites, parce qu'il y a tellement de choix. C'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré un personnage au cours d'une exploration, et je dis, lui, c'est un enfoiré, je vais le fumer. J'ai pas cherché à comprendre. À peine j'ai fini le dialogue, j'ai positionné mes personnages et je l'ai dégommé. Et après, quand je me suis reposé au camp, il y a un des personnages qui est venu me voir et dit « Ah, ce personnage, on ne peut pas lui faire confiance, il va nous trahir. » Mais en fait, on l'avait tué. Et là, dans le patch, ils disent « Ah, on avait passé cette option-là que certains joueurs, ils ne vont pas chercher que le personnage les trahisse, ils veulent les tuer directement. » Donc maintenant, les personnages, quand tu discutes à ton camp, ils te parlent toujours des derniers événements. Et évidemment, il y a tellement de possibilités. Je pense que les patchs, mais c'est très rare que tu as ce type de, je dis pas de bug, mais de petite erreur d'écriture. C'est juste que le script, normalement, je pense que j'aurais dormi deux fois dans le campement. Le personnage m'aurait dit « Ah oui, on a bien fait de le tuer. » C'est juste que peut-être que dans les lignes de code, il fallait un petit peu de fignolage, mais il y a tellement de possibilités.
Ouais, ouais.
Et le jeu est extrêmement propre. Hein. Il n'y a pas vraiment de bug de quête. Hein.
Mais justement, tu parlais de l'Early Access. Tu avais joué, toi, à l'Early Access ou pas du tout?
Non, je ne voulais pas me spoiler. Ouais. En revanche, j'ai suivi un petit peu. Et c'est très intéressant parce que un des gros problèmes des RPG, surtout des RPG occidentaux, c'est très difficile au début et très facile à la fin parce que la difficulté est très mal équilibrée. Et aussi, il y a ce que j'appelle des mécaniques de frustration un peu débiles. Les RPG occidentaux, c'est des RPG où des fois, on fait des tests de jet de dés. Donc, moi, j'ai joué un paladin qui a beaucoup en charisme et en force et j'avais des compétences de persuasion. Donc, généralement, quand je veux persuader un type, j'ai 90% de chance de le persuader. Mais t'as pas de chance au dé, tu fais un, bam, t'as loupé le truc. Et pendant l'Early Access, il y a des joueurs, ils ont fait remonter un truc. Ils disent, vous savez ce qu'ils vont faire les joueurs, amis développeurs? Ils vont recharger la sauvegarde. Si ça leur arrive trop souvent. Sinon, ils vont jouer le jeu. Il ne faut pas qu'il y ait trop de frustration au niveau des jets de dés.
Ouais.
Alors, ils ont trouvé une excellente idée. Ils appellent ça l'inspiration. C'est des relances de dés. Mais ces inspirations, tu les gagnes quand tu fais un petit peu de roleplay. Je mets des guillemets, des R guillemets. Quand tu crées ton personnage, bon, tu fais ta classe, un paladin, un magicien, un barbare. Puis, tu vas lui choisir une origine. Ça peut être un soldat, un ancien noble, un gamin des rues. Mmh. Et si à un moment donné dans le jeu, tu te comportes un peu comme ton background, le jeu te récompense, te dit tiens, une inspiration. Et l'inspiration te permet de relancer un jet foireux. Un truc tout bête, moi à un moment donné, je me promenais dans un campement, il y avait un adulte qui apprenait à un gamin à s'entraîner à l'épée. Donc moi je m'approche, je lance le dialogue, et parmi tous les choix que tu peux faire, tu peux faire le mec bienveillant, ah oui c'est bien mon petit, ou tu peux faire le type, mais vous n'avez pas honte d'apprendre un enfant à se battre, c'est un adulte. Où tu peux être le moqueur, ah pauvre gamin, tu n'y arriveras jamais, t'es trop nul. Puis il y avait un choix qui est très technique. Tu devrais positionner ton bras, la défense, c'est important. Un truc très art martial. Moi, j'ai sélectionné. Je lui ai dit, c'est un paladin, c'est un ancien soldat, il parlerait comme ça, en fait. Bon, je finis le dialogue, ça m'a pas rapporté d'XP, ça n'était pas un truc de quête, c'est juste un dialogue comme ça. Puis le jeu me dit, tu t'es comporté en soldat, tu as eu un discours martial très pragmatique, on te récompense. Un autre moment du jeu, tu arrives dans un endroit, il y a eu un grand combat et tu vois un personnage qui prie devant un cadavre. Donc tu arrives, tu as plein d'options de dialogue. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien de prier un mort ou tu peux toi-même lancer une prière. Puis tu as une option, c'est de ne rien faire. Et en fait, oui, c'est roleplay. Quand tu es un paladin, tu respectes les dieux des autres. Moi, alors c'était un peu au hasard, donc j'ai pas parlé. Et le jeu m'a récompensé. Ouais, vous avez respecté... le dieu de l'autre en tant que paladin, et bim, il m'a donné une inspiration, qui m'a servi à relancer des jets après.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment leur early access. Les joueurs en fait remonter plein de fois. C'est cool de jeter des dés, mais si on loupe trop de dés, alors que nos persos sont censés être forts, alors ils sont grattés la tête, ils disent, bon, vous n'allez pas recharger les sauvegardes. Dans le jeu, si vous allez avoir des petites récompenses qui vont permettre de faire des relances. Et ça, c'est vraiment leur early access qui a apporté ça. Un autre truc, à l'Ariane, ils ont un gros défaut, c'est que, oui, il y a beaucoup d'interactivité dans les décors, notamment pour les combats. Genre, tu jettes une boule de feu sur un baril, ça va exploser. Donc, tu peux t'aider si tu es en infériorité numérique. Mais dans leur précédent jeu, il fallait qu'ils mettent des barils d'essence de partout. Mais de partout. Et puis, pour montrer qu'avec un éclair, tu pouvais électrocuter des gens, il y avait de la flotte de partout. En gros, ils surjouaient ça. Et ils ont commencé à le faire. Dans Baldur's Gate 3.
Comme dans Resident Evil. Quoi.
Exactement. Tu sais, il y a toujours dans ces jeux où tu te bats avec des flingues, ouais. Tu arrives dans un endroit avec des bidons d'essence et 25 zombies, tu vois.
Et les méchants sont, bien entendu, ont stocké des caisses inflammables juste à côté d'eux. Enfin,
ouais. Dans leur early access, ils ont dit vous nous saoulez avec ça, vous êtes trop fort avec vos interactions, c'est trop cool, mais vous forcez trop. Et des joueurs, quand jouent à leur early access, ils ont vraiment bien, bien réduit. Moi qui n'ai pas joué à leur early access, c'est magnifique. Il y a de l'interaction de décor. mais c'est pas abusé non plus, quoi. Tu balances une boule de feu, tu crames pas tout.
Bah, moi,
tu vas
moi,
cramer.
J'avais une petite vidéo
du bois,
qui faisait très, oui, pardon. Qui m'avait fait penser, qui me fait penser, enfin, ce que tu dis sur l'interaction avec les décors me fait penser à cette vidéo. Et en plus, il y avait un côté, je trouve, très jeu de rôle papier. Je me rappelle plus qui avait partagé ça. Mais c'était un gars qui voulait franchir une muraille. Et qui devait, je pense, ne pas avoir le, enfin, les gardes du château ou de l'endroit devaient lui refuser l'accès, enfin, refuser l'accès à son personnage, etc. Et dans la vidéo, il empilait genre 25 caisses pour passer au-dessus de la muraille. Et le jeu laissait faire ça, tu vois. Tu pouvais vraiment franchir la muraille, les remparts en utilisant, en empilant des caisses, quoi. J'avais trouvé ça très drôle. Et ça me fait penser à une solution que pourrait imaginer, après, peut-être que le maître de jeu, dans une partie très sérieuse, te laisserait pas faire ça. Mais techniquement, je pense que c'est le genre d'idée qui peut traverser effectivement l'esprit d'un joueur de jeu de rôle papier, où tu te dis, ah bah, si j'ai pas le droit de passer par là, bah, je vais trouver une autre solution, quoi. Et ça m'a fait sourire parce que, je me rappelle pas vraiment d'un autre RPG où tu peux utiliser ça pour, en général, t'es souvent vraiment bloqué par des limites invisibles, plus ou moins marquées, mais là, apparemment, tu pouvais vraiment t'affranchir de cette limitation, quoi. J'ai trouvé ça marrant.
Ben, mais moi, j'ai tellement été matrixé par les JRPG où tu as des surhommes et qui ne peuvent pas franchir un pont cassé, qu'il y a un trou de 3 mètres, qu'à un moment, dans Baldur's Gate 3, je devais aller à un endroit pour explorer, pour résoudre une quête, et j'arrive devant un pont cassé. Je dis, ah mince, je peux pas, peut-être que je ne peux pas faire ma quête. Et puis, pour faire un combat, je m'aperçois que mon paladin a beaucoup en force. Et en fait, dans le jeu, plus tu as de force physique, plus tu peux sauter loin et haut. Et mon paladin, pendant un combat, j'ai fait sauter littéralement sur une muraille pour qu'il fracasse un mec avec une hallebarde. Puis je regardais, tu peux peut-être faire ça au pont. Donc je finis le combat, je retourne au pont, je clique sauter, et oui, le paladin, il saute vachement loin. Et puis je regarde, je prends mon perso qui a le moins en force. Bah lui, il peut sauter 1m50 aussi. Et en fait, je lui dis, mais non, mais oui, bah, c'est un jeu où tu peux aller où tu veux. Les personnages se déplacent en 3D.
Je suis en train de penser à quelque chose, mais finalement, cette résolution des problèmes... parce que là, c'est marrant que vous parliez des personnages qui sont super balèzes et qui ne peuvent pas passer un pont, mais je crois qu'il y a ça dans FF16, et ça lui a été notamment reproché. C'est que tu as exactement ce genre de quête annexe avec un pont où littéralement il manque une planche et tu as le charpentier à côté qui fait « Ah, le pont est cassé, tu peux pas l'emprunter ». Et le mec, il a juste en fait à faire à sauter, tu vois, clairement. Et puis c'est pas un saut, ça va pas lui demander beaucoup de capacité, quoi. Limite, il l'enjambe, tu vois. Et autre chose à quoi ça me faisait penser, c'est que cette année, donc moi, je suis en train de jouer à Zelda, là, et le dernier, donc Tears of the Kingdom, et si différents qu'ils soient dans leur, bien entendu, dans leur manière de jeu avec Baldur's Gate, je me suis demandé en vous écoutant si on n'était pas sur une ère, en tout cas dans les prochaines années, de jeux à venir, qui, au lieu de basiquement proposer un problème égale une solution, et il faut que ce soit cette solution-là que tu aies trouvée, sinon le problème ne se résoudra pas, mais que ce ne soit pas, au final, un problème égale une multiplicité de solutions que le joueur, en fait, le joueur aura surtout l'embarras du choix des solutions pour résoudre un même problème. On sera plus sur, tant que tu n'as pas trouvé la bonne action ou la clé ou quoi, tu pourras pas rentrer dans la pièce.
Bah tiens, je peux te parler d'une quête annexe. Alors, il y a no spoil, hein, parce que c'est vraiment une quête typique des RPG, mais justement, comme tu peux rentrer dans tous les sens, elle nous apparaît comme originale. Donc je me balade comme ça, justement, après avoir sauté par-dessus mon pont, pour aller chercher un personnage, je me paume, j'ai aucun sens d'orientation, moi. Et puis à un moment donné, je vois des carrioles cassées avec du sang, du sang de partout, avec une traînée de sang qui part dans un chemin. Et un personnage, ouais. Il dit, ah tiens, ben là, il y a des gens qui se sont fait attaquer. Et je dis, non, moi, je ne vais pas aller dans la trace de sang, je vais faire ce que je voulais faire depuis le début. Donc, je me promène, je me paume, je tombe dans une grotte, la grotte, je la traverse, je me repaume, je franchis un truc, et je vois deux mecs en train de se battre qui disent, ah, on se fait attaquer. Et tu leur dis, ah, mais vous pouvez passer par là où je suis passé, on n'a pas le temps, et puis on a une cargaison à sauver. Et là, tu as un combat qui se déclenche. Comme le jeu est un diaporama en 3D, on peut faire des dézooms, regarder un peu où vous êtes, Et je me suis dit, mais en fait, si j'avais suivi la trace de sang, je serais arrivé mais du côté des ennemis qui attaquent les deux mecs. Bon, moi, j'ai, par hasard, je suis arrivé du côté des mecs qui étaient acculés dans une grotte. On fait le combat. C'est au début du jeu, je ne maîtrisais pas trop les pouvoirs ni les trucs. Je me bastonne et en fait, les deux mecs se font exploser par les ennemis. Bon, ils sont morts.
D'accord.
J'ai dit bon. Et je vois un énorme coffre et il y a un truc dans le journal de quête qui dit bon, les mecs sont morts, mais ils ont quand même un énorme coffre démesuré avec un seau bien particulier. Alors j'ai décidé de ne pas l'ouvrir. J'ai juste foutu sur le paladin qui est une bête de somme, hein, qui peut porter plein de trucs. Sauf que les mecs sont morts. Donc, s'ils avaient survécu au combat, ils m'auraient dit ou je ne sais pas. Et j'étais au début du jeu et comme un idiot, j'ai pas utilisé mon sort de parler au cadavre. Parce que ça, tu peux le faire. Quelqu'un meurt, tu utilises le sort et il va te parler. Alors, c'est pas un vrai dialogue, c'est des questions et tu peux dire mais d'où tu viens, machin. J'avais pas eu l'idée de le faire. Je me balade dans le jeu avec cette caisse et impossible de savoir quoi en faire, en fait. Puis, par hasard, je tombe sur un endroit relativement reculé que faut vraiment, vraiment explorer pour le découvrir. Et il y a un type qui vend des choses, un marchand. Et vous savez, dans les RPG, il y a toujours la ligne de dialogue pour vendre, acheter, et puis la ligne classique, « Oh, ça va les affaires, ça se passe bien ?» Je clique sur la ligne, il dit, « Non, non, ça se passe pas bien, j'ai une cargaison, j'attends depuis 10 plombes, je l'ai pas, d'ailleurs, tu vas voir mes objets, j'ai que dalle. Hein. » Et tu dis, « Mais c'est pas ça, là, le gros coffre que je me travaille ?»« Ah oui, ben c'est cool, bah tiens, je te la rachète. » Et par hasard, hein. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une quête toute bête. C'est, tu t'aides des gens, et puis, mais en fait, les gens ils peuvent mourir, tant pis pour eux, tu as quand même leur caisse. La caisse, tu peux l'ouvrir, enlever le seau et piquer ce qu'il y a dedans, ou pas le faire. Tu peux être comme moi, par chance, tomber sur un marchand, et c'est lui, le hasard, mais dans la vie, il y a le hasard. Mm-hmm. Ou peut-être que si un des mecs avait survécu, il me dit, escorte-moi jusqu'à ma base. Et une quête toute bête comme ça, rien que parce que tu peux rentrer, soit du côté des attaquants, soit du côté de ceux qui sont agressés, ils peuvent mourir.
Ça, en parlant des marchands, c'est vrai que tu peux les mettre KO au lieu de les payer.
D'accord.
Pour récupérer la marchandise.
Alors, ça aussi, je l'ai appris au cours du jeu. Ça aussi, un petit défaut, c'est qu'ils ne te disent pas tout. Par exemple, n'importe quel joueur peut pas frapper de manière létale, tu peux assommer. C'est une option à activer dans un menu déroulant qui n'est pas très visible. Tu cliques dessus et quand tu vas donner, tu vas faire tomber à 0 PV, au lieu de le tuer, tu l'assommes. Bon, moi, j'aurais pu assommer plein de gens. Moi, j'ai tué tout le monde. Et effectivement, en faisant que assommer, ça te permettrait peut-être de sauver des vies. Mais tant pis, c'est le jeu. Et j'ai jamais fait. Jamais assommé. J'ai parlé à beaucoup d'animaux. Tous les animaux ont un truc à dire. Mais il faut avoir la magie pour. Des fois, il y a des quêtes, tu vas les résoudre parce que tu as parlé à une bestiole du coin. Ou simplement, t'as trouvé...
Moi, j'avais été marchand, le nombre de fois où dans les RPG, j'avais pas l'argent pour m'acheter les meilleures armes ou les meilleurs boucliers. Ça m'est venu, les mettre KO et leur piquer leurs trucs. Après, j'imagine que ça a des conséquences potentielles aussi plus tard, parce que si tu tombes sur un ami du marchand dans un autre lieu, etc.
Ça m'est arrivé de faire un... Tu peux ouvrir toutes les portes. J'ai essayé de crocheter une porte, mais quelqu'un m'a vu. Donc au début, on vous a repéré, il ne faut pas faire... Puis le deuxième coup, ils préviennent les gardes. Donc tu dois gérer les gardes, soit en les tuant, soit en les assommant, soit en les persuasant, etc. Et t'as quand même, tu passes pas de gentil à criminel en puissance. C'est quand même une hiérarchie. Ça m'est souvent arrivé de faire des trucs un peu en zone grise et puis, oh non, finalement, je ne vais pas le faire. Ou si j'attends de... que le type ait le dos tourné, je me mets en mode discrétion et puis je prends le type le plus rapide pour
déverrouiller. Et du coup, au bout de 100 heures de jeu, est-ce que tu vois des différences marquées avec les deux premiers ou je sais pas, dans la structure ou est-ce qu'il y a une vraie filiation
Je l'apparente plus à un jeu Larian dans le sens où ils font des... ils te donnent l'opportunité de déclencher des quêtes au début du jeu. Et après, ces quêtes peuvent avoir des conséquences sur des quêtes qui peuvent s'ouvrir sans que tu aies ouvert les quêtes dans le premier acte. Et donc, il n'y a pas de souci, tu peux rentrer dans les quêtes. C'est quand même très, très Larian. Et contrairement aux jeux BioWare, ils ne te forcent pas à un moment donné dans les RPG, mais surtout les RPG BioWare, tu as toujours ce moment où on te force à faire la quête principale. Ils t'enferment à un endroit où il y a, je sais pas, les méchants, ils attaquent. Tu peux, ah non, tu peux plus être promené, tu peux plus faire les quêtes. Ah non, là, pendant une heure, tu fais avancer la quête. Ça, ils le font pas. En fait, ils te poussent de manière assez subtile à avancer dans le jeu. C'est toi qui veux avancer dans la quête. Et effectivement, à la fin, tu as toute la résolution qui s'ouvre. Et le dernier acte du jeu est immense, avec toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi. C'est là où tu as le maximum de liberté. Autant les Baldur's Gate, je trouve que c'est un peu un entonnoir. Tu as énormément de possibilités au début, et puis au fil du temps, ça se resserre, et jusqu'à l'affrontement final. Là, c'est plus en sablier. Tu as, pendant l'Early Access, pour te montrer un peu les possibilités du jeu, tu as plein de choses à faire, plein de quêtes annexes à ouvrir. L'acte du milieu, là, en revanche, on te resserre pour te révéler les antagonistes, pour te donner un peu des informations, pour que tu comprennes à qui t'as affaire. Comme ça, dans le dernier acte, tu fais tes choix. Tu as ouvert des possibilités par tes actions, mais en plus, tu en sais un peu mieux. Parce qu'il y a un peu le mystère. Oui, tu sais que tu affrontes une entité très puissante qui est capable de lever une armée, mais il subjugue tout le monde, n'arrive pas à comprendre comment il fonctionne. Tout le monde tremble, hein, les dieux et tout. Et toi, grâce à l'acte 2, qui peut être un peu plus restreint, mais tu peux quand même faire des choses. Et ça, c'est un peu typique de l'Ariane, de, à un moment donné, te pousser un petit peu dans la direction, dire oui, on aimerait t'emmener là, mais en vrai, tu peux faire tout ce que tu veux faire dans le sens que tu veux faire. Ça peut te donner l'impression de ouais, mais en vrai, je suis un peu dans le parc d'attractions et je fais les quêtes un peu comme ça m'arrange. Et tu avais un peu cette impression ça dans les Divine Divinity 2. Et là, ils m'ont vraiment surpris. C'est qu'ils ont réussi à faire que la quête principale te met toujours des petits coups de pression pendant ton exploration, pendant tes quêtes annexes. Ça te rappelle, et c'est nous les antagonismes. À un moment donné, tu vas explorer, tu vas creuser, et on va se rappeler à toi. Mais tu peux toujours continuer à être assez libre, mais tu as un peu une pression qui, limite, c'est toi, le jeu insidieusement te pousse à « Ah, je vais peut-être quand même pousser à faire ma quête principale », alors que le jeu ne te le force pas. En fait. Ça, j'ai trouvé ça assez subtil dans l'écriture, mais c'est plus une écriture d'agencement de quête et de faire que les quêtes annexes ont toujours un petit lien avec la quête principale. Et ça, j'ai trouvé que c'était plus l'Ariane que les Baldur's Gate, qui, je trouve, te donnait beaucoup de liberté au début. À un moment donné, on te fait choisir entre la faction 1 et la faction 2 pour avancer. Puis à la fin, bah, tu te tapes contre le grand méchant qui est généralement quelqu'un de très charismatique, très puissant, et c'est lui que tu dois aller, quoi.
Question que tu viens de soulever chez moi, Bénic, tu joues forcément les méchants ?
Quand tu dis tu joues forcément les méchants.
Parce que tu m'as dit, tu viens de dire que tu joues les méchants.
Ah, désolé, j'ai peut-être pas été clair. Tu as les méchants, enfin les antagonismes, se rappellent toujours à toi. C'est-à-dire que, quelle que soit la quête annexe que tu... Alors, à part, des fois, il y a des quêtes annexes qui sont très décorrélées des enjeux, mais forcément, tu vas faire des quêtes pour des gens puissants et tu vas avoir besoin de gens puissants qui te soutiennent. Ce qui fait qu'à la fin du jeu, tu auras des choix à faire que les méchants t'obligent à faire, mais tu as à la fois les choix que tu fais en ton âme et conscience pour résoudre la problématique, mais aussi quand tu vas résoudre la problématique, tu vas avoir besoin d'alliés. C'est pas forcément des gens qui sont engagés dans le combat final, mais qui disent « tu nous as rendu service ». Si tu nous dis c'est dans l'intérêt indirect du monde de venir avec toi, on te suivra. Dans le journal des quêtes, ils te disent ces personnes-là vous soutiendront si vous leur demandez. Et en fait, à la fin du jeu, tu as à la fois une liberté dont je décide c'est un peu des choix moraux, mais des fois, tu n'as pas vraiment des êtres humains en face de toi. Donc, c'est vraiment, tu choisis des idéologies. Oui. Et après, tu as en plus. Qui va t'aider ? Ça, c'est tous les choix des gens que tu as aidés ou que tu as vaincus ou que tu as détruits qui font que l'histoire va être différente. Et ça, c'est un... J'ai pas eu l'impression qu'il y avait ça dans les Baldur's Gate 1 et 2 ou dans les jeux à l'ancienne, où en gros, c'est à la fin du jeu, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est à la fin du jeu, dans les dernières heures, tu décides soit 1, soit 2, soit 3, et tu as fait 1, 2 et 3. Là, tu as un peu l'impression qu'ils te forcent un petit peu la main. Alors peut-être des gens, ça va les décevoir, dire « Ah non, moi, je veux quand même avoir... la possibilité de faire mon choix au dernier moment. » Là, le jeu te dit, en vrai, à force de tuer des gens, de rouler pour lui, tu vas être obligé de, peut-être pas sur les 5 choix d'avoir les 5 choix, mais tu n'en auras plus que 3. Mais ça va donner de la singularité à ton histoire.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais j'évite de spoiler un peu. Quoi, mais...
D'ailleurs, je pense que aussi un élément qui fait que le jeu a fait beaucoup parler. C'est déjà que l'Ariane, j'ai remarqué qu'ils ont l'air très à l'aise tout ce qui est communication sur les réseaux. Et du coup, ils jouent beaucoup aussi avec leur communauté. Et en plus, de toute façon, le jeu, tu peux jouer en coop, en fait, c'est ça ?
Oui,
donc tu peux jouer en coop. Et je crois qu'il y a beaucoup de fonctions pour qu'il soit facilement intégrable pour Twitch, ce genre de choses. Donc du coup, ça a dû contribuer, je pense, à sa popularité. Parce que si c'est facile de streamer, forcément, ça aide aussi à faire parler du jeu, j'imagine.
Ouais. C'est à vendre.
Un truc tout bête, sans spoil, tu arriveras toujours à un moment donné où « Ah, j'aimerais bien infiltrer un personnage. » Il n'y aura qu'un seul qui va pouvoir s'infiltrer. Mais moi, tu peux dégrouper les personnages. Donc, tu peux prendre un personnage, littéralement quitter la map ou aller dans un endroit tout seul. Les trois autres, ils peuvent bouger. Tu peux même t'amuser à prendre un personnage, le faire parler au marchand. Comme ça, le marchand, il est fixé dans le dialogue du paladin, par exemple. Et puis, le voleur, il a grimpé une échelle, il est en train de crocheter parce que marchand, il a son cône de vision braqué sur le paladin.
Non, mais tu sens qu'ils ont effectivement beaucoup bossé, quoi. Il y a quand même un taf monstre.
Ah ouais, ça a l'air assez fou. Hein.
Alors, je suis curieux de voir ce que ça donne sur les consoles. Alors, je mettrai des liens dans le forum, ça peut aider des gens. Mais quand je suis arrivé, c'est pas vraiment un spoil, mais dans un jeu qui s'appelle Baldur's Gate, à un moment donné, vous allez être à la ville de Baldur's Gate. Et en fait, les chutes de performance, les FPS sont divisés par deux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand je me promets dans la nature, et quel que soit le nombre de personnages, ça roulait nickel. Je suis arrivé à Baldur's Gate. C'est vraiment une ville médiévale avec bien construite. Hein, avec, on sent la ville fortifiée, le port fortifié, mais qu'ils ont été obligés de construire des baraques en bois dans les quartiers pauvres. Donc c'est hyper tortueux. Il y a plein de gens qui montent des escaliers, qui descendent des escaliers. Tout le monde parle. Tous les bâtiments sont en hauteur. Les chutes de performance, parce que le PC doit gérer tout ça. Et quand vous lancez un combat, alors peut-être qu'ils optimiseront avec des patchs, ils prennent en compte l'intégralité de la ville, quoi. Et je suis curieux de voir sur les consoles s'il n'y a pas d'un coup. Parce que ça peut être un biais pour beaucoup de gens qui n'ont pas des PC extrêmement puissants. Malheureusement, au début, dans l'Early Access, ça roule nickel. Il y a même une chaîne YouTube qui s'appelle Digital Foundry qui ont fait une vidéo sur les performances. Et quand ils ont sorti la vidéo, ils se sont fait reprendre de voler par des mecs qui disent mais l'acte 3, c'est divisé par deux les FPS. Donc ils ont ressorti une autre vidéo où ils ont expliqué plein de paramètres pour aider les gens. Et ils ont expliqué ça ne vient pas des cartes graphiques, ça vient du processeur parce que c'est que du calcul de possibilités. Ce n'est pas les effets de lumière, les beaux graphismes. C'est comme le jeu prend en considération toutes les possibilités. Et un exemple, vous pouvez invoquer des créatures qui vont se rajouter au groupe. Ça rajoute beaucoup de charges de calcul au PC. Et disait, vous pouvez mettre les options maximales, les textures les plus belles, tous les effets lumineux. C'est pas ça qui va jouer, malheureusement. C'est que le jeu a été codé pour prendre en compte cet immense environnement. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à avec des patchs, à essayer d'optimiser ? Après, ça reste un RPG. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une fluidité identique à un FPS, mais pour donner un peu une idée à nos amis auditeurs, moi j'ai un PC gamer d'il y a 3 ans, dans les environnements ouverts, je suis à 60-70 FPS, c'est-à-dire qu'il y a une fluidité totale, en revanche dans les villes, je suis à 30, et c'est un peu à la limite, il y a des gens chez qui ça passe, il y a des gens ça les rend un peu malades, ça dépend des gens, c'est un peu la limite les fameux 30 FPS, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces limites, et il y a... donc avec un PC qui a 3 ans, je pense que vous êtes à la limite des puissances techniques, mais en vrai une PS5 c'est assez puissant,
je pense que ça devrait y aller. Sinon ça serait bloqué à 5 FPS.
J'allais y venir, mais vous êtes sur la Switch 2.
C'est vraiment des tableaux au sens littéral.
Sait-on jamais.
Ça pourrait être compliqué. disons que tu aurais 400 heures de jeu, mais c'est juste parce que ça ramerait, quoi, parce que tu as passé 400 heures sur le jeu. C'est quand même un peu dommage.
Ça deviendrait admirable de le finir à ce niveau-là.
Je ne sais pas ce qu'il y a d'autres trucs à raconter sur le jeu.
Après, alors Moi, je me suis fait la réflexion en y jouant. Puis j'ai vu sur des forums, notamment un forum qui est très célèbre, c'est le forum de Canard PC. Et on n'est pas les seuls à avoir pensé à la même chose. Donc je pense qu'il y a un consensus. Et en vrai, tous ceux qui ont été amoureux de la franchise Dragon Age, en fait, c'est Dragon Age 4. Hein. Parce qu'en fait, ils ont tellement... D'accord. Ils sont un peu inspirés de ça. Donc si les gens ils sont un manque de Dragon Age, jouez à Baldur's Gate 3. Je dirais que ceux qui sont fans des Divine Divinity Original Sin, donc la franchise de Larian, ben jouez à Baldur's Gate 3 parce que c'est maximisé. Hein. Ils ont enlevé tous les défauts un peu agaçants. Il n'y a pas ce côté hack and slash où tu changes d'arme toutes les demi-heures. C'est très déplaisant dans un RPG, en fait, de ramasser la moindre épée parce qu'elle fait un point de dégâts en plus. Là, littéralement, un objet, c'est un événement. Il y a un objet magique, tu dis « Ah, c'est cool, mais qu'est-ce qui fait cet objet ?» Moi, mon paladin, j'ai changé en centaure de jeu 3 fois d'armure. Parce que à chaque fois, les armures, c'est rare, une armure lourde magique. Et à chaque fois, je me souviens de « Ah oui, cette armure, j'ai fait cette quête pour l'avoir. » Cette armure, au début, je pensais que j'étais plein aux as, mais quand j'ai vu que ça coûtait 12 000 pièces d'or, j'ai dit « Bon, ben maintenant, pendant les 3-4 heures qui vont suivre, je vais faire le rapsou à toutes les quêtes parce que je la veux, cette armure. » En fait, c'est des petites histoires que je me fais dans ma tête. Et il n'y a pas cette surenchère. Ça va plus te parler à toi, Emmanuel, mais tu sais, quand tu joues au Baldur's Gate, tu as toujours les anneaux plus 1. Il y en a 150 dans le jeu. L'épée courte plus 1. Ben là, ce n'est pas trop le cas. Hein. Et les épées plus 2 sont rares ici. Mais je crois que j'ai dû voir 3 armes, des reliques, des trucs. C'est des quêtes qui durent 5 ou 6 heures pour les avoir. Des objets, vraiment, tu l'as. Là, j'ai un vrai objet magique. Et c'est pareil pour les niveaux. Tu as des montées en niveau rare. Chaque montée en niveau, c'est un événement. Tu vas te faire un petit café et tu vas siroter ton café et dire « Ah, je vais monter mon perso comme ça, tranquillou. » C'est pas comme un hack and slash où c'est un peu, ou un jeu sur smartphone où tu montes d'XP toutes les 5 minutes, où c'est un peu galvaudé la montée en puissance. Là, à chaque montée en puissance, tu dis « Ah, bah alors là, je vais pouvoir faire encore plein de nouveaux trucs. » Là-bas, il y avait une quête qui m'enquiquinait, j'avais un peu peur, ils sont trop nombreux, mais là j'ai pris un niveau.
Non, j'avoue, sur le nombre d'artefacts, ça changerait effectivement quand tu penses à The Witcher 3 encore. Le nombre d'armures ou d'épées que tu as dans le jeu, parfois effectivement, toutes les 5 minutes, tu jongles entre telle armure, telle épée. En plus, il a 2 épées dans The Witcher, forcément. L'épée en argent et puis l'épée classique. Donc, j'avoue, changer 3 fois d'épée en senteur de jeu, ça serait reposant, on va dire.
D'ailleurs, il y a un truc que justement, c'est quand tu joues à Baldur's Gate 3 que tu t'aperçois qu'il y avait des défauts dans les anciens jeux. Quand on se balade dans Witcher 3 et dans beaucoup de RPG, on a l'impression qu'il y a un groupe de bandits, un groupe de trolls, ils sont juste là à t'attendre pour t'attaquer. Ils ont que ça à foutre de leur vie. Ça fait un peu artificiel. Ouais. Là, dans Baldur's Gate 3, en fait, chaque combat, c'est un événement. C'est-à-dire, t'es rentré dans cet endroit-là, il y a des bandits. Oui, mais les bandits, ils sont où? Ben, ils sont peut-être à la table en train de bouffer. Il y en a un dans le couloir et puis il y en a deux qui pioncent. Ils vont pas, la base ne va pas faire 8000 pièces avec 3000 couloirs. Donc, si tu tapes un des mecs et que tu n'as pas été discret, bah, tous les autres ils vont se rameuter d'un coup. Ou à l'inverse, si tu es un peu idiot, tu arrives en premier dans la grande salle, ils vont tous te tomber dessus. Chaque combat, c'est un événement. Souvent, quand je joue, je me rappelle, ah oui, il y avait ce combat-là, c'était marrant parce que je me suis fait avoir. Le combat il s'est déclenché, j'étais encerclé. Ou à l'inverse, là, j'ai senti le coup venir, j'ai dégroupé mon mec qui était fort à l'arc, j'ai fait grimper une échelle. Et effectivement, c'est parti en vrille, mais j'avais mon gars qui était bien placé. Et tu as vraiment l'impression qu'un combat, c'est un combat tactique, aléatoirement, hein, avec qui t'as mis dans ton groupe, si tu t'es fait des alliés qui vont t'aider dans le combat, mais t'as pas l'impression de surenchère, de je rentre dans une grotte, je vais me taper 25 gobelins parce qu'il faut se taper 25 gobelins. Moi, j'ai traversé des forêts sans me faire attaquer par des bestioles. En revanche, il y a une grotte, tu rentres dans la grotte, peut-être que tu vas tomber sur une maman avec ses petits, elle va te sauter à la gueule, quoi. Et il y a du combat pour ceux qui aiment les combats, mais c'est jamais gratuit. Si jamais on ne fait pas des combats pour faire des combats.
C'est quand même assez fou quand tu penses au niveau de l'intelligence artificielle, quoi. Parce que, bon, quand t'as... Enfin, là, c'est clairement c'est ça qui fait la différence. Corrigez-moi si je me trompe.
Oui, tu as raison. Je pense que c'est un énorme travail de script. Ils ont prévu plein de situations pour donner un peu de vitalité.
Tu penses que c'est plutôt le script? Oui, ouais, d'accord.
Okay. Les scripts. Okay. Un truc tout bête, à un moment donné, dans une zone, tu as deux factions qui s'affrontent. Et dans les factions, tu as des gens qui vont être califes à la place du calife. Donc moi, à un moment donné, j'ai dit, eux, je vais me les faire. Mais le problème, c'est que quand je vais vouloir attaquer dans quelconque endroit que j'attaque, leur base, elle est trop ouverte et ils vont tous se rameuter sur moi. M'en promenant un peu dans la base, j'ai vu un mécontent parce qu'il y a... Alors, je sais pas si c'était une blague de l'Ariane, mais à un moment donné, il y a un mercenaire qui dit... Là, ils veulent nous payer en réputation, mais moi, je vais te payer en or. Hein. Il nous dit, oui, tu travailles pour moi, ça va donner de la grandeur. Mais non, moi, il m'a dit qu'il me payait à la semaine, il me paye à la semaine. Donc, tu discutes avec le mec, avec un mec qui a un peu de charisme, tu peux monter un coup, mais faut le rencontrer, ce gars, faut lui parler dans le camp.
Ouais.
Et après, je dis, ah, mais lui, si je m'allie à lui, peut-être que, effectivement, j'ai pu m'allier à ce gars. Donc, dans la baston finale, il y avait mon groupe, le chef de la faction, le mec qui l'a trahi. D'ailleurs, au moment donné où le gars arrive, il dit « Ah, je viens t'aider, tu peux le trahir et dire à l'autre « Oh, mais finalement, je veux rouler pour toi, on va le tuer. » C'est une foire d'empoigne. Et donc, ils ont prévu plein de situations. Je me souviens toujours dans ce combat, j'ai très fier de moi. J'ai dit « Ah, j'ai monté les uns contre les autres. Le méchant, je l'ai tué en l'envoyant valdinguer avec mon mage. Je l'ai carbonisé dans de la lave. J'étais trop fort. » Sauf que dans la quête, ils m'ont dit « Tu nous ramènes sa tête. » Le cadavre carbonisé irreconnaissable. Donc le mec m'a dit, oh, mais c'est très bien, t'as tué, mais je reconnais pas la tête, je te paye pas. Mais j'ai gagné la quête quand même. Donc ça, c'est, j'ai appris à mince quand tu carbonises des mecs.
Mais t'as pas été payé.
J'ai pas été payé, mais j'ai réussi la quête.
D'accord.
C'était une petite quête annexe parce que c'était un gars qui avait une rancune avec ce type. Moi, ça m'a fait rigoler, j'ai pas rechargé une sauvegarde juste pour ça. Je dis, bah oui, t'es idiot, tu carbonises un mec, tu peux pas reconnaître le cadavre. Vous savez, ces quêtes où on demande de couper la tête et démontrer.
C'est comme dans la vraie vie. Non, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Cet enregistrement, j'aurais pas pensé que le jeu avait une profondeur.
Surtout toi qui joues beaucoup à des JRPG.
Mais oui, c'est vrai. Tout à fait. Tu m'évoques cette fameuse. C'était Phil Fish il y a 10 ans. Qui avait sorti quelque chose à ce propos-là, non ? À propos des JRPG, en disant que, en gros, il se faisait complètement, pardonnez-moi le terme, mais défoncé par les jeux occidentaux, quoi.
Le truc.
Je sais plus si c'était les jeux en général ou plutôt les de manière générale ou plutôt les par rapport aux jeux japonais.
Ouais. Ben, moi, je dirais que les Japonais, ils ont fait Zelda, Breath of the Wild, et ils ont tué le game du jeu ouvert. Mais après, pour tout ce qui est les questions des quêtes, des embranchements de quêtes, ce qu'ils ont fait l'Ariane, c'est parce qu'ils ont fait 3 ans d'Early Access, d'où tous les scripts super bien. Et donc, ils ont utilisé leur communauté comme bêta-testeur. Ils ont dit eux-mêmes ce qu'on a fait.
Mais le jeu était payant à ce moment-là.
Oui, tu payes. Toi, tu payes. Alors moi, j'ai payé l'Early Access une semaine avant le jeu pour créer les persos. Tu sais, pour m'entraîner à créer mon personnage. Ouais. Et en vrai, le jeu, il m'a récompensé. Il m'a donné la version de luxe avec le artbook de tous les artworks. Mais oui, c'est ça, une Early Access. Tu payes pour faire le bêta-tester. Mais ils ont toujours fait ça à l'Ariane. Et pourquoi ils avaient fait ça à l'Ariane? C'est justement ce jeu en coopératif. Ils ont dit, on va essayer de faire des jeux coopératifs, mais il y a tellement de bugs dans tous les scripts. Les joueurs, ils vont penser à des trucs que nous, on ne pense pas. On a besoin de beaucoup de retours, puis de vrais joueurs, en fait. Pas gens qu'on paye. Et au début, ils disaient, mais ils sont quand même mouflés. Mais ça fait partie de leur délire. Et ils n'ont jamais déçu qui que ce soit avec leur Early Access. Mais ils l'ont reconnu eux-mêmes, hein, dans une interview. Ce qu'on a fait avec Baldur's Gate 3, ça va être très difficile à reproduire. On a bénéficié de la réputation de la franchise, on a eu 3 ans d'early access, on s'est inspiré des prédécesseurs, on a énormément travaillé, on n'est pas non plus un studio gigantesque. Il a dit, mais c'était super, hein, il a dit aux autres studios, n'essayez pas de refaire ce qu'on a fait si vous n'avez pas les mêmes moyens et puis les mêmes façons de faire. Nous, on a fait un truc... C'est vraiment plutôt de créer un gameplay émergent avec des IA. En gros, c'est un peu un travail artisanal ancien où tu prévois tout, toi. Et là, ils vont continuer dans un an. Tu vas voir la version améliorée. Ils font toujours ça. Ils vont continuer à peaufiner toute possibilité. Ah oui, c'est vrai que là, on a un peu moins d'interaction avec les sortilèges de détection de pensée, par exemple, ou de parler avec les morts. Parce que quand tu veux parler avec morts, tu veux parler avec tous les morts. Et des fois, ça veut pas. Mais peut-être que parce que le sort n'a pas été prévu ou que le jeu, bah, le mec avait rien à dire. Moi, je suis bon public, je dis non, mais on va pas non plus demander aux gens de tout prévoir. Déjà, rien que le fait qu'à un moment donné, je voulais franchir un pont pour voir toutes les possibilités, j'ai grimpé un monticule et j'ai regardé aux alentours. Je dis je vais aller là.
Moi, j'avais peut-être une dernière question. Enfin, je sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas, j'avais une question. Mais bon, je sais pas, est-ce que tu avais joué à Cyberpunk ou pas?
Oui. 200 heures.
200 heures. Bon, alors, du coup, tu pourras sûrement répondre à ma question. Niveau immersion, alors c'est pas le même, enfin c'est pas la même chose, mais est-ce que Baldur's Gate justement est plus immersif, plus peut-être que justement plus moderne finalement, ou est-ce que t'étais aussi vraiment plongé dans Night City avec Cyberpunk?
Alors Baldur's Gate 3, c'est très intéressant parce que pour moi, si on devait faire un classement des tauliers des RPG, Cyber Project, donc Cyberpunk, Witcher 3, et puis Larian. Sauf qu'à un moment donné, la subjectivité va dire, ah là, ils sont un peu meilleurs, là, les autres sont un peu meilleurs. En termes d'immersion, de vraiment de plongée, de mise en scène, quand les gens parlent entre eux, Cyber Project est un peu meilleur. Même dans une ambiance tout bête, moi je me souviens d'un moment dans Witcher 3 où tu parles à un gars dans une auberge, les angles de caméra, les discours, les dialogues, ils sont un cran au-dessus. En revanche, dans l'écriture de quête, dans les possibilités, dans la liberté, Witcher 3 avait ce défaut aussi. Hein. On l'a remonté à Cyberpunk, mais Witcher 3 l'avait. Il n'y a pas tant d'options que ça. On te fait croire, oui, tu choisis entre deux trucs. Au final, la fin, c'est la même. Mais oui, tu peux faire plein de trucs différents, etc. Baldur's Gate 3, il est vraiment plus dans... Tu veux, si ton sentiment d'immersion est basé sur je veux de l'interaction, je veux des choix, je veux qu'à un moment donné, bah, mon histoire de mon gars que j'ai carbonisé, ou à un moment donné dans le jeu, tu as une grosse baston obligatoire de la quête principale, c'est vraiment la grosse bagarre. Hein. Tu as ton groupe, tes alliés, les méchants, ça balance des boules de feu, ça monte sur les tables, ça prend des mecs, ça les jette. Foire d'empoigne. Je finis la baston, je gagne, je me tourne et je vois qu'il y avait un des PNJ qui peut être un futur compagnon qui est mort.
Ah.
Mais c'est vraiment un personnage hyper important. Et un personnage que je dis non, ce coup-ci, je recharge la sauvegarde. Parce que c'est un personnage qui t'ouvre plein de quêtes annexes, plein de trucs, mais qui n'est pas du tout utile au jeu. Donc Baldur's Gate 3 peut littéralement t'enlever 70% de son contenu parce qu'il veut te faire vivre un truc.
Oui.
Alors que Cyberpunk, tu vas tout faire. Tu peux, le seul truc que tu ne veux pas faire, c'est vraiment les quêtes nullax, un peu FedEx, qui est bourré dans Cyberpunk, qui est bourré dans The Witcher. Va me tuer, machin, va me faire ceci, que tu n'as pas trop dans Baldur's Gate. Mais en termes de... Après, les Cyberpunk, les Witcher 3, tu es centré sur un perso.
Oui.
Donc, tu vas être dans la peau de ce perso. Tu as un peu l'impression que tout tourne autour de ce perso, que ce soit le V de Cyberpunk ou Gérald de Rive dans Witcher 3, tout tourne un peu autour de ces gens-là. Alors que Baldur's Gate, tu as un groupe de personnages qui sont face à un monde, et c'est les interactions entre ton groupe de perso et le monde. Tu vas beaucoup t'attacher avec les personnages. Moi, il y en a que j'ai adoré, je les trouve sympathiques, sans qu'il y ait un énorme pathos ou des trucs de ouf, hein. Mais j'ai trouvé ça assez sympathique. Alors oui, il y a eu la facilité typique de Larian de dire ils ont tous une origine commune. C'est ce qu'on dévoile dans les trailers. Ils ont tous été kidnappés, des méchants leur ont fait un truc pas cool. Ils ont tous ce point commun. Et après, ils ont tous ce truc de... Mais en fait, nous, on a un problème. C'est qu'on a un némésis personnel et peut-être que ce qui vient nous arriver va nous permettre de nous libérer de ce némésis personnel. Et ils sont tous comme ça. Tu peux dire... Ah, vous êtes gonflés, Larian, c'est tous le même archétype. Mais en vrai, ils ont réussi à raconter 6 ou 7 histoires différentes avec ces simples lignes. J'ai un gros problème. Les méchants viennent faire des sales trucs, mais moi, ma vie, elle est pourrie et peut-être que je peux utiliser ça pour m'en sortir de ma quête, de mes petits tourments personnels. Et donc, ils ont trouvé 6 ou 7 tourments personnels bien différents qui peuvent se résoudre de manière très différente au cours du jeu. Grosse écriture sur les quêtes de compagnons, alors que dans Witcher 3 et Cyberpunk 2077, je dirais, tu as un peu l'impression, comme ils sont bien écrits, les autres personnages, ils sont un peu des objets de ton histoire à ton perso. Mais après, au niveau des dialogues, c'est super bien mis en scène. Maman dit, ouais, mais tout tourne autour de mon petit personnage. Mais c'est super, hein, c'est vraiment un peu ce qu'on dirait de l'heroic fantasy, tout centré sur un côté, ton perso, celui-là, son petit nombril. Alors que dans Baldur's Gate, c'est plus épique, c'est plein de persos, c'est plein de factions. Et au final, tu te dis, t'as pas vraiment l'impression, t'es juste quelqu'un dans des conflits, bah, t'as des dieux, t'as des gens ambitieux, t'as des demi-dieux, t'as plein de trucs, et toi, t'es au milieu de ça, tu peux être une force qui va se lier à d'autres forces. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant si t'as envie de te dire, je fais partie d'une histoire plus grande que mon personnage, même aussi puissant soit-il.
D'accord, ouais, je vois.
Mais tu peux aussi te dire, c'est un peu artificiel. Tu sens vraiment la mécanique RPG, oui, c'est un groupe de persos, des archétypes. Alors que quand tu es dans Cyberpunk ou Witcher 3, comme tu es très centré sur un perso, tu peux donner beaucoup plus de corps, mais tu as moins de personnages, parce que toute la narration se fait sur le petit nombril de Gérald de Rive ou V de Cyberpunk. D'ailleurs, l'extension de Cyberpunk qui vient de sortir, ils ont gommé ce défaut. C'est-à-dire que là, tu vois que le monde de Cyberpunk existe en dehors de toi, ce qui donne un cachet supplémentaire à leur jeu. Ils ont appris de leur erreur.
Ah bah écoute, je verrai ça.
Mais clairement, les deux jeux sont très immersifs.
J'ai lancé le téléchargement de l'extension en lançant l'enregistrement de ce podcast, donc je découvrirai ça demain pour Cyberpunk. Mais en tout cas, ouais, merci pour la comparaison. Je vois ce que tu veux dire, en tout cas, et c'est vrai que les deux, de toute façon, les deux sont bourrés de qualité. Donc,
Après, Baldur's Gate, il y aura cette logique de quand même de très grosses maps, et à un moment donné, tu vas quitter des maps pour aller dans la nouvelle. Alors que Witcher 3, Cyberpunk, c'est des mondes ouverts intégrales. Donc là tu as vraiment une sensation d'univers qui va te subjuguer par l'immensité, bon, même si tu n'as rien à faire. Alors que Baldur's Gate 3 te dit, ah, ça, tu peux faire ça, tu as plein d'embranchements, ah, mais si tu fais ça, ah, tu veux faire ça en premier ou tu veux faire ça en premier, mais si tu fais ça, peut-être que ça va te couper un truc.
Ouais.
T'es un super libre dont vous êtes l'héros.
T'as vraiment cette logique de jeu de rôle qui a été respectée jusqu'au bout. C'est ça qui est fascinant.
Moi, je me dis, pour dépasser ça, il faudra créer une IA dans le jeu qui sera un MJ. Tu vois, parce que là, c'est du scriptage à fond.
Je pense que c'est vers là que ça ira potentiellement, hein, avec une IA dans un jeu et qui tu pourras avoir ta propre histoire personnalisée. Ça, c'est une fois, enfin, mais bon, après, ça nécessitera un moteur qui soit capable de s'adapter aussi, mais bon, pourquoi pas, quoi. C'est vrai que ça, en fait, ce que ça évoque, Baldur's Gate 3, c'est l'évolution d'un éventuel Baldur's Gate 4, ce serait ça. Quoi d'autre, sinon?
Mystère. Mais oui.
Ah, je posais la question, hein, mais donnez-moi tort.
Non, moi, je trouvais ça logique, mais après...
S'il y a des...
Ouais, parce qu'après, ça va demander, et l'évolution sociale ne veut pas aller vers ça, de plus en plus d'heures de travail, de développeurs, d'artistes, de retours, de bêta-testing.
Ouais, c'est vrai.
C'est ce qu'il disait le gars de l'Ariane. Nous, bah, rien qu'avec une Early Access, le Cyberpunk, ça s'est fait avec énormément d'heures de boulot. C'est des projets pharaoniques. C'est un peu comme dans le nouvel Hollywood, dans le cinéma des années 70, où ils faisaient des films qui coûtaient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher par rapport au retour sur investissement. Ils ont été obligés de se révolutionner. Là, le jeu vidéo, soit on va faire des jeux beaucoup plus confidentiels, ça ne va plus être des AAA, et on va être plus restreint dans la technique, dans la technologie, et on va être sur des mécaniques de gameplay plus simples, mais que ce sera les joueurs qui se font leur idée. Mais après, si on veut vraiment plonger les gens dans des univers et dépasser ce que fait un Baldur's Gate 3, ce que fait un Zelda Breath of the Wild, il va falloir... soit les jeux, ils vont mettre 10 ans à se faire, mais soit il faut des équipes de développement gigantesques, mais c'est des risques. Soit il va se faire aider par des intelligences artificielles.
Ça sonne comme une conclusion, tout ça, ou je me trompe? Non.
Est-ce qu'on t'a donné envie de jouer à toi qui joues plutôt à des JRPG?
Carrément, ouais. Franchement, je pensais pas que... En fait, tout le côté, si tu veux, profondeur et... embranchement. Moi, c'est vrai que les embranchements, c'est une tendance à me fasciner. ce côté, tu prends une décision et t'as choisi gauche, t'as choisi pile ou quelque chose que t'as choisi, en fait, ça te donne droit à quelque chose, mais en contrepartie, tu le perds. Et c'est comme dans la vraie vie, si tu veux. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et c'est pour ça que j'aimais bien, tu vois, bon, ça n'a rien à voir, mais j'aimais bien les jeux tel, parce que je croyais à l'époque, j'étais naïf, que c'était les rois de l'embranchement. Et en fait non, pas du tout.
Oh ben, en fait, si tu as eu cette frustration, là, clairement, tu as beaucoup plus de conséquences. Ouais,
ouais, c'est ça.
Ça, en fait, ça reste des embranchements.
C'est ça, hein. Que je vais... C'est ça que je vais chercher, c'est ça que je trouve intéressant, effectivement, qui personnellement, moi, me donne envie d'essayer, ouais, c'est clair. Parce que effectivement, tu peux te... C'est le côté un peu univers vivant qui va trancher, comme tu le disais tout à l'heure très justement, avec ce côté monde ouvert, qui est sympa parce qu'il est ouvert, mais finalement, est-ce qu'il y a tant de choses que ça dedans, quoi? Il y a des choses, mais est-ce que c'est pas ça a pas une tendance en fait à se répéter, ça pas une, enfin c'est un peu la même chose. Bon.
En tout cas, c'est une approche. On en parlait aussi. Enfin, moi, j'évoquais ça puisque tu parlais de conclusion, en possible conclusion. On voit qu'un Final Fantasy XVI, lui, a choisi de se renouveler en étant plus dans l'action, puisque visiblement, on est plus face à un Devil May Cry version RPG,
ouais, que, un monde Vandam.
Qu'un jeu de rôle plus traditionnel.
Oui, qu'un vrai Final Fantasy. Ouais.
Donc voilà, c'est ah ouais. Des approches différentes, mais peut-être que le RPG de l'année n'est pas celui qu'on attendait, en tout cas.
Non, c'est clair, parce que effectivement, Final Fantasy, je pense que c'est à mon avis vautré dans les grandes largeurs, mais comme le 15, mais bon, de toute façon, la situation des RPG japonais n'est pas la même que celle des RPG occidentaux. De toute façon, on le voit quand même. Je suis pas sûr que le salut des RPG japonais soit dans les grandes boîtes. Même si Square Enix ne fait pas que des mauvaises choses, mais souvent, j'ai souvent l'impression que c'est leurs éditeurs tiers, avec un budget moindre, qui sont plus inventifs, prennent quand même plus de risques que les grosses cylindrées en général. Eh bien, nous allons conclure sur la... Si... Est-ce que vous aussi, chers auditeurs, si vous êtes joueuse ou joueur de Baldur's Gate 3, et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à nous donner votre avis en forum, parce qu'on est toujours on est très friands de ça. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a bien donné envie, j'avoue, alors que bon, je suis quand même pas un joueur PC, et j'ai pas la PS5, donc c'est un peu problématique, mais je ne désespère pas, effectivement, Baldur's Gate sur Switch...
On va regarder un let's play en attendant.
Ouais, mais j'aime pas. En fait, si je joue pas un let's play, ça me donne la désagréable impression, tu sais, comme quand t'étais petit et que t'allais chez ton pote et en fait il jouait à la console, mais toi t'avais pas le droit de
jouer. Il voulait pas lâcher la manette.
Ouais, il voulait pas lâcher la manette. Et du coup, en fait, bah, c'était un let's play, mais quand t'as 9 ans, tu vois.
Et j'ai les souvenirs d'enfance qui t'ont traumatisé, du coup.
Bah, c'est un peu ce côté-là, tu sais, quand il y a le let's play, je me dis, mais. Enfin, le mec ou la nana il s'amuse parce qu'il joue aux jeux vidéo, mais bah moi je le regarde s'amuser, tu vois.
Ouais, mais bon, ça plaît.
Ah, bien sûr, c'est juste que c'est pas pour moi.
En tout cas, effectivement, si vous avez plongé fondu sur Baldur's Gate 3, ou que vous avez des souvenirs à partager sur les deux premiers, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum. Hein, plus on est de fous, plus on rit.
Et à venir partager vos idées et oui. petit aparté, parce que j'ai oublié de le dire en début d'émission, mais si vous voulez nous soutenir, si vous voulez soutenir elbakin.net, le site, son association, vous pouvez faire un don sur la plateforme Helloasso, dont vous retrouverez le lien sur la page d'accueil du site. Ces dons, ça nous aide à faire ces émissions, à continuer à garder le site à flot, à faire ces news, maintenir le forum, et vous essayer de vous proposer toujours plus de contenu en rapport avec la fantasy sous toutes ses formes. Et merci, messieurs.
Mais de rien, c'était un plaisir.
Et nous vous retrouvons pour le prochain podcast d'Eldohacking.net, le numéro 96. Allez, à bientôt.
À bientôt.
À moi l'aventurière qui doit sauver.